Bonjour à tous. Appliquer, oui, appliquer les problèmes d'Eli, on n'a peut-être pas trop de mal. Appliquer toutes les belles choses qu'il a faites, c'est déjà plus dur. Hein. Mais voilà, c'est quand même passionnant de voir cet homme qui, la Bible dit, de la même nature que nous, qui a fait des choses vraiment extraordinaires. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, je vais essayer d'être plus rapide que la dernière fois. Donc, il s'agit d'Eli, prophète de Dieu. On est à peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça fait quand même très loin, hein, 2700 ans. Il a vécu donc 3 ans de sécheresse où Dieu l'a protégé, caché, nourri et lui a permis d'accomplir toutes sortes de miracles. Avant d'annoncer la fin de la sécheresse, il a pu s'adresser au peuple d'Israël devant 400 prophètes de Baal pour qu'ils choisissent de servir ou Dieu ou les Baals, mais de ne pas rester entre deux. Quand le peuple a vu le feu du ciel consumer l'autel, le taureau, les pierres, etc., malgré l'eau qui avait été répandue dessus, alors que les prophètes de Baal avaient été totalement inefficaces, c'était rien passé. Le peuple a décidé, oui, il a reconnu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis, ils ont éliminé tous les prophètes de Baal, prophètes de mensonges, évidemment. Le roi lui-même semblait convaincu, mais voilà. Après la prière d'Élie, la pluie est revenue, mais la reine a menacé Élie de mort. Et Élie va s'enfuir vers le sud, seul et découragé, vous vous souvenez. Il a même demandé à Dieu de le reprendre parce que trop c'est trop. Mais pendant ces 40 jours de marche vers la montagne de Dieu à Horeb, Dieu va lui parler de deux manières différentes. Et on ne va pas revenir là-dessus, mais vous pourrez écouter les épisodes précédents. Hein. Et il a entendu cette voix de Dieu dans le murmure doux et léger. Hein, il y avait le feu, il y avait le tremblement de terre, etc. Mais c'est le murmure doux et léger qui a touché son cœur. Et puis Dieu, à la fin de cette rencontre avec Dieu, va renouveler son appel. Et ça, c'est important parce qu'il était découragé, il pensait que tout était fini. Et Dieu lui dit, non, continue ton chemin, tu vas oindre Hazael, roi de Syrie, tu vas oindre Jéhu, et puis tu vas oindre Élisée pour le former, en fait, hein, pour être après lui. Alors, là, je voudrais juste corriger une petite erreur que, bon, moi, j'ai faite quand j'étais enfant et qu'on me racontait ça à l'école du dimanche. J'avais l'impression que Élie rencontre Élisée et puis, pouf, ils font un bout de chemin ensemble et Élie est ramené au ciel et Élisée prend la suite. Or, non. Justement, en relisant bien le texte, je me suis dit, mais non, ça peut pas parce que quand on voit les différents épisodes d'Élie, on voit qu'il s'est passé du temps avec les noms des rois qui ont changé. Et alors hier, j'en ai parlé avec Gilles et sa femme, et elle me dit, il semblerait même qu'Élisée soit resté avec Élie pendant 25 ans. Donc alors, je ne sais pas, je voulais faire le calcul avec les temps de règne des rois, parce qu'à cette époque-là, il y avait suffisamment de chroniques et de récits pour qu'on s'y retrouve. Hein. C'est pas comme au temps d'Abraham, on n'a pas beaucoup de documents, mais là, on en a. Je pense, il faudra vérifier ça, mais en tout cas, il y a eu un temps assez long où les deux ont été ensemble. Et c'est sûr que quand on voit ce qu'est devenu Élisée, on voit qu'il a fréquenté Élie de près pendant un certain temps. Voilà, donc c'est important de rectifier ça parce que si on regarde les pages de la Bible, je ne sais même pas s'il y a une page entre les deux, donc on a l'impression que pouf, il le rencontre, il met son manteau sur lui et puis hop, il s'en va. Il est repris par le Seigneur, mais pas du tout. Hein. Ils ont été ensemble un bon moment. Donc, il a de nouveau un programme d'action, mais il va d'abord... C'est marrant parce que Dieu lui dit dans cet ordre-là, oindre Hazael, Jéhu et puis Élisée. Et il va d'abord commencer par Élisée. Et ce sera Élisée qui va oindre Hazael et Jéhu. Élisée va continuer l'appel d'Élie, mais Élie s'est concentré sur son successeur, sur Élisée. Alors, on avait vu la semaine dernière qu'Élisée, en fait, était fils d'un riche agriculteur. Alors, riche parce que visiblement, quand on a 12 paires de bœufs qui labourent le champ, 12 tracteurs aujourd'hui, c'est déjà un agriculteur qui est bien installé dans la vie. Hein. Voilà. Et lui, il va abandonner son travail très rapidement Et dès que Élie pose le manteau sur les épaules d'Élisée, Élisée a compris. Visiblement, il sait qui est Élie. Alors doublement, moi, ça m'a intriguée parce que je me suis dit quand même, il a vu la difficulté de la vie de prophète, les menaces de mort qui ont pesé sur lui, le fait qu'il a dû se cacher, tout ça. Le téléphone arabe marchait bien. Hein. Comment est-ce qu'il a pu accepter aussi facilement cette vie-là? Et en plus, faire une fête pour fêter ça. Waouh, quel cœur il avait, Élisée. Ça m'a vraiment... Et j'ai repensé à tous ces missionnaires qui sont partis, particulièrement, bon, aujourd'hui, il y a les avions, il y a tous les médias, ils ne sont pas coupés de leur famille, mais je pense à Hudson Taylor, ou tous ces gens qui sont partis en Chine, en Afrique, à l'époque où bah, ils étaient complètement coupés, les nouvelles mettaient des mois à leur parvenir, et ils ont fait des choses extraordinaires. Mais quelle foi et quelle... consécration ils ont eu ces gens, c'est incroyable. Et même encore quand j'étais petite, je me souviens des missionnaires qui passaient dans ma famille, dont les papas, le papa et la maman de Madame Friedman que vous avez connue dans l'église. Quelle consécration ils ont eu. On prie entre souvent les colonisateurs français qui étaient vraiment pas géniaux, et puis bah les coutumes, l'occultisme, etc., local. Et ils ont servi le Seigneur avec joie. Et ils avaient la pêche, comme on dirait. Hein. J'ai toujours admiré ces gens. La Bible dit, il a fait la fête, hein, il a sacrifié sa paire de bœufs pour faire un grand repas avec sa famille, ses amis. Il a brûlé le bois de la charrue, etc., pour faire le feu. Et puis, la Bible dit, au chapitre 19, verset 21, « Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. » Donc c'est là qu'on voit qu'il a été suffisamment de temps à son service. Merci, oui, désolé. C'est donc 1 roi 19. On a commencé à 1 roi 19 et là on va avancer. Et là on était chapitre 19, verset 21. Il se lève, suivit Élie. Après ce banquet d'adieu. Et certains pourront relire Matthieu 9, 9 où... Matthieu aussi a fait un repas quand Jésus l'a appelé. Il y avait le sens de la fête. Hein. Et je trouve ça formidable parce que quand même, servir le Seigneur, même aujourd'hui, ce n'est pas simple. Et faire la fête pour dire oui, on y va, avec la famille et les amis, c'est beau parce que ça montre des cœurs qui se réjouissent de servir le Seigneur, qui connaissaient hein, Élisée. Il savait très bien qui était Élie. Il savait que la vie de prophète dans un pays où le peuple a un cœur complètement partagé entre les idoles et Dieu, ça va être difficile, ça va être dangereux. Mais je crois que lui faisait visiblement partie de ces 7000 hommes dont Dieu avait parlé à Élie qui ne sont pas prosternés devant les idoles. Hein, c'est là qu'on voit ces gens-là. Alors, quelqu'un a dit quelque chose de très intéressant à propos d'Élie et Élisée. Avec Élie, son nom signifie « l'Éternel est Dieu ». Dieu va démontrer sa puissance. Hein, le feu du ciel descend, on va le voir encore aujourd'hui. Par contre, avec Élisée, qui veut dire « Dieu sauve », Dieu va démontrer son salut. Et c'est intéressant parce qu'il va se passer la même chose avec Jésus. Élie, on fait souvent sa référence à Jean-Baptiste, hein, qui était l'Élie de Jésus. Et... Élie a prêché la repentance, un peu comme Jean-Baptiste a prêché la repentance, un peu comme Élie, le retour à Dieu. Et puis Jésus, comme Élisée, a manifesté sa grâce et son salut. Donc c'est intéressant cette petite comparaison. Je vais juste vous en faire part parce que il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible qui se répondent. Hein. C'est là qu'on voit que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Un livre avec, je crois, c'est 40 auteurs différents sur... des centaines et des centaines d'années, et qui a cette cohérence incroyable. C'est merveilleux, les textes qui se répondent, etc. Alors, donc on est à cette époque où la confession du peuple au Mont Carmel, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, n'a amené aucun changement profond dans le peuple, qui continue à mélanger le culte de l'Éternel et les Baals et les Astartés. Jézabel, la reine, qui est une pure païenne, complètement hostile à la foi juive, elle est trop forte et beaucoup trop influente tandis qu'Akab, le roi, est trop faible et beaucoup trop influençable. Donc le pays est en danger, la foi juive est en danger. Israël a complètement manqué l'occasion de se convertir. Il n'a pas compris que le jugement de Dieu lui avait été épargné. Mais ce jugement viendra quand même. Et c'est dans Amos, vous trouvez ça dans les prophètes, et Amos 8, verset 2, dit « La fin vient pour mon peuple d'Israël ». C'est seulement 40 ans plus tard. Hein. Donc le jugement a été reculé, mais c'est tout. Mais il y a un reste qui subsiste, on voit ça dans Ésaïe 6, 10 ou 7, 3, pour un nouveau commencement. Et c'est ce que nous étudions en ce moment avec Néhémie dans les trios de croissance. Un nouveau commencement. Le retour d'exil, donc ils ont été exilés, mais il y a eu un retour d'exil, une reconstruction. Et tout ça, c'est lié à la grâce de Dieu envers son peuple. Et c'est finalement Élisée qui va accomplir les ordres donnés à Élie, comme j'ai dit. Il va nommer Hazaël et Jéhu. Et Hazaël et Jéhu, ça représente quoi pour Israël ? Le jugement. Hazaël, c'est le roi de Syrie qui va envahir et faire la guerre et réussir à envahir le pays. Et puis Jéhu, qui va être roi d'Israël, mais qui avant va assassiner toute la famille d'Akab. Donc, le jugement, il vient, mais il vient plus tard. Dieu recule, la patience de Dieu est grande, mais ce n'est pas parce que Dieu est patient qu'il annule ses jugements. Si on ne revient pas de nos mauvaises voies, un jour ou l'autre, on récolte ce qu'on a semé. Et il ne faut jamais voir le jugement de Dieu comme le bâton qui nous attend au coin du bois. C'est simplement notre choix qui va déterminer le jugement de Dieu. C'est nos choix. Ce n'est pas Dieu qui attend l'occasion de nous taper dessus. Et malheureusement, le peuple a choisi, mais vraiment, malgré ses paroles au Mont Carmel, ils ont choisi d'adorer et Dieu et les idoles. Alors, est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui ? Hélas, je crois oui, la tentation aujourd'hui en plus est d'être inclusif, n'est-ce pas ? De tout mélanger et de ne pas faire de choix. D'ailleurs, ça devient de plus en plus difficile de faire des choix. On veut tout en même temps. Alors, lisez des magazines féminins là, pour les dames, vous allez voir qu'on veut tout en même temps. L'argent, la gloire, la famille, les loisirs. Oui, c'est pas toujours facile. On peut pas avoir tout en même temps. Et dans le domaine chrétien, c'est pareil. Il y a des moments où il faut qu'on fasse des choix. Et si on fait pas ces choix, on aura forcément des difficultés. C'est important de reconnaître Dieu pour qui il est. C'est le but de toutes les victoires et de tous les jugements, car ça permet de rétablir la communion avec Dieu. Chaque fois que Dieu donne une victoire au peuple d'Israël, rappelez-vous ce verset, « Afin que l'on reconnaisse que je suis l'Éternel ». Chaque fois qu'il y avait un jugement, « Afin que l'on reconnaisse que je suis l'Éternel ». Le but de tout ça, c'est qu'on reconnaisse que Dieu est Dieu, qu'il est souverain. Et ça n'a pas été évident pour le peuple d'Israël à cette époque. Après ces passages, on ne va pas lire un roi 20, puisque ce n'est pas directement la vie d'Élie. Je vous résume rapidement. Donc, quand on arrive après le chapitre 19, chapitre 20, c'est le récit de guerre avec la Syrie, bien sûr, où Akab écoute les conseils d'un homme de Dieu et remporte deux victoires. Akab a fait des progrès là. Il va écouter les conseils d'un homme de Dieu qui n'est pas nommé et il va remporter deux grandes victoires. Et l'idée de Dieu, comme toujours, était bien claire. « Et vous saurez que je suis l'Éternel », chapitre 20, verset 28, ou bien « Tu sauras que je suis l'Éternel », chapitre 20, verset 13. Donc, vous voyez, c'est toujours « Victoire, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel ». Et dans le livre d'Ézéchiel, j'ai lu 54 fois, vous avez ce verset. C'est important. Donc tout ce qu'on vit, les difficultés, les victoires, afin qu'on sache que Dieu est souverain sur nos vies. Et c'est pas... Alors, les victoires, ça va. Hein? Merci Seigneur. On a vécu quelque chose de bon, on est content. Merci Seigneur. Mais les difficultés... « Afin qu'on sache que je suis l'Éternel », ah, c'est un peu plus dur. Hein? Et puis on arrive au chapitre 21 maintenant. J'ai passé le chapitre 20 parce qu'on ne parle pas du tout d'Élie. Au chapitre 21, on a la terrible histoire de la vigne de Naboth, à la suite de laquelle Élie va prophétiser ouvertement contre Akab et sa famille. Alors, je pense que je vais la résumer parce que je pense que presque tout le monde la connaît bien. Naboth habitait, j'allais dire, avait le malheur d'habiter à côté du palais et il avait une belle vigne. Un vignoble, on va dire. Et Akab, des fenêtres de son palais, il trouvait que c'était sympa, cette vigne, et il a décidé de l'acheter. Et Naboth a refusé de vendre sa vigne. Alors vous allez me dire, tiens, il est bête, il aurait pu gagner pas mal d'argent. Mais à cette époque, on ne vendait pas le bien de la famille. C'était passé de génération en génération. Et on y attachait de l'importance, non pas matérielle uniquement, mais c'était l'héritage des générations précédentes. Et il y avait un tel respect pour l'héritage des générations précédentes qu'on ne s'en défaisait pas. Et si on était obligé de s'en défaire, tous les 50 ans, ça devait revenir dans le clan. Et donc ça, c'était ce qu'on appelait le jubilé. Et donc, on ne se défaisait pas des biens de la famille. C'était mal vu, c'était pas correct dans la loi de Moïse. C'était aussi pour garder une certaine égalité. Sinon, il y a les riches qui auraient acheté tous les trucs des autres, et puis bah, les autres, au bout de 3-4 générations, ils n'auraient plus rien. Ils n'auraient plus qu'à se vendre en esclavage. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une civilisation agricole. On se nourrit soi-même, etc. Donc Naboth refuse. Akab, qui était juif, aurait quand même dû le savoir. Il lui a donné les bons arguments. Il lui a dit non, c'est un héritage de mes ancêtres. Et Akab, il est triste. Et en fait, il fait un petit peu comme les petits-enfants à qui on refuse quelque chose. Il est triste, il est irrité. Il boude, en fait. Et il va même refuser de manger. Ah, Akab, quand même. Sa femme lui demande ce qui ne va pas. Et elle lui dit, mais enfin, tu es roi d'Israël. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth. Tu es roi d'Israël parce que elle ne connaît pas la loi de Moïse. Tout au moins, elle en connaît la forme, mais elle n'en connaît pas le fond. Et bah, chez les païens, à cette époque-là, le roi avait tous les droits. Vous savez que dans la loi de Moïse, les droits du roi étaient encadrés. Ils n'obéissaient pas toujours, mais c'était encadré par la loi. Elle vient de la côte, là, d'endroits complètement païens. La loi de Moïse, c'est un mystère pour eux. Et évidemment, elle lui dit, mais t'es le roi. Mais enfin, misère, débrouille-toi, tu le prends de force. Alors j'imagine qu'Akab, ben oui, mais la loi... Bon, je m'en occupe. Et puis elle a monté tout un stratagème. Et là, ce qui est terrible chez Jézabel, c'est qu'elle va se servir d'éléments de la loi juive. Et ça, c'est fou. Elle va se servir de la nécessité de faire des lettres d'accusation, la nécessité de proclamer un jeûne, d'avoir deux faux témoins, sinon dans la loi, tu ne peux pas accuser quelqu'un sans deux témoins. Elle va dire qu'il a maudit Dieu et le roi. Ça, ça ne passe pas, évidemment. Et elle va faire une sorte de procès incroyable, et puis Naboth va être lapidé. Elle a acheté des faux témoins, elle a menacé peut-être simplement, on ne sait pas trop comment elle a fait, mais elle a pris la forme de la loi. Il faut des témoins, proclamer un jeûne, faire des lettres d'accusation, etc. Elle va se servir de la forme de la loi pour faire un crime, carrément, complètement injuste. Elle respecte la forme légale pour donner au meurtre une apparence de justice. Alors, on va lire au chapitre 21, verset 17, parce que, voilà. Là, Élie n'apparaissait pas dans cette histoire, et voilà, verset 17. « Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras. Voici ce que dit l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur ?» Bon, il fallait du courage pour un prophète de confronter un roi comme ça. « Et tu ajouteras, voici ce que dit l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, puisqu'il a été lapidé, ils lécheront aussi ton propre sang. » Et voilà, il rencontre Akab. Et Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, mon ennemi. J'aime bien. Parce qu'il s'entendait après ce qui s'est passé au Mont Carmel. Il semblait qu'ils étaient un peu réconciliés. Mais quand il s'agit d'injustice, ça devient son ennemi. Et même s'il donne une parole de Dieu, ça devient son ennemi. Élie répond, « Je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Et c'est important ce mot « vendu » parce que ça fait penser à, c'est je crois l'apôtre Paul hein, qui dit qu'on est vendu au mal. Je vais faire venir le malheur sur toi, je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Achab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, qui était aussi un roi idolâtre, fils de Nébat, et à celle de Baécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi à Jézabel et dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézreel. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. C'était le comble de l'horreur hein, à cette époque. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Et il y a un petit commentaire derrière de l'auteur de ce chapitre. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de la manière la plus abominable en suivant les idoles, comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Bon, c'était une parole dure qu'il a été obligé de donner au roi, mais il l'a fait. Quelle fidélité ! Parce que le danger était là. Enfin, il aurait pu le faire tuer sur place. Ils ne se sont pas gênés pour le faire avec d'autres. Hein. Mais Dieu a protégé Élie. Et voilà ce qui se passe après. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. C'était des signes de repentance. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Et c'est là que vous voyez la grâce et la compassion de Dieu. Dieu était vraiment en colère après ce qu'il avait fait, tuer un innocent de cette manière abominable. Mais il voit la repentance du cœur. C'est pour ça quand on parle de repentance, je le répète encore, c'est un retour vers Dieu. C'est reconnaître que Dieu est Dieu et que nous, bah, on ne vaut pas grand-chose, on a besoin de lui. Et Dieu est sensible à la repentance. Et alors évidemment, franchement, moi quand j'étais petite et que je lisais ça, je me disais, après ce qu'il a fait, moi je n'aurais pas pardonné quoi. C'est honteux, tu es un innocent de cette manière. Et mais Élie a été Dieu a été sensible. Et voilà ce qu'il dit à Élie. As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. Et vous en faites pas, son fils n'était pas mieux que lui. On va le voir après. La grâce de Dieu quand on se repent. Et c'est l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore venu. Mais cette grâce de Dieu devant la repentance. Donc, quelles que soient les âneries qu'on a pu faire, les péchés, les désobéissances, si on se repent, Dieu seul est capable de juger de la sincérité de la repentance. Nous, non. Mais Dieu en est capable. Et s'il voit une sincère repentance, j'allais dire, il craque. Son cœur s'ouvre, il tend sa main, il bénit. Donc, parfois, j'ai entendu des gens me dire, « Oh, mais Dieu ne peut pas pardonner ce que j'ai fait. » Bah écoutez, il a pardonné à Achab avant la venue de Jésus, quand on était encore sous la loi. Donc oui, il peut pardonner. Il peut pardonner ce qu'on a pensé, parce qu'on a parfois on ne pense pas des gentilles choses. Il peut pardonner ce qu'on a dit, il peut pardonner ce qu'on a fait, si on se repent vraiment. Si on vient devant le Seigneur en disant, Seigneur, vraiment là, j'ai café, c'était terrible. J'aurais pas dû. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. S'il voit une repentance sincère, il agit. Et il va même jusqu'à reculer son jugement. La famille d'Akab, honnêtement, on va le voir après, était pourrie de chez pourrie, quoi. Mais il se dit, quand même, cet homme s'est repenti. Eh bien, ça ne sera pas pendant sa vie que je vais intervenir. Il recule le jugement. Dieu est bon, hein, quand même. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui disent, ah, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent. Lisez la Bible de près. Vous allez voir cette miséricorde, cette compassion de Dieu. Elle est toujours là. Par contre, bah, c'est le cœur humain qui détermine les choses. Et on va le voir avec Akasia, j'espère, tout à l'heure. Son fils, bah, franchement, celui-là, s'est endurci, endurci, endurci. Pas question de se repentir, on va voir les conséquences. Évidemment, Akab, il n'avait rien fait pour empêcher sa femme d'agir. Hein. Il est coupable par son silence. En plus, il connaît bien la loi de Moïse, il savait qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Mais bon, il a suivi sa femme. Élie a retrouvé toute son énergie dans cette histoire. Et moi, ça me frappe. Vous vous souvenez quand il était sous son genêt, là, la semaine dernière, et qu'il était complètement déprimé. Oh là là, je suis le dernier à te servir. Regarde les Israélites, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes. Et puis, il était au bout du rouleau. Et là, il va confronter Akab. Bah, sa femme, elle n'est pas loin. Hein. Elle aurait pu l'attraper et le faire tuer. Il a retrouvé son énergie et sa confiance en Dieu. C'était là le problème, c'est sa confiance en Dieu. Il avait un peu perdu confiance en Dieu. Je suis restée moi seule, etc. Mais là, il n'a plus peur de Jézabel. C'est curieux, hein? Alors qu'il avait fui jusque dans le sud du pays. Là, il confronte, il annonce le jugement de Dieu. Et alors franchement, moi j'étais surprise de la repentance d'Akab. Je me souviens, c'était le pasteur coréen qui était là pendant une année, là, pendant son congé sabbatique, qui m'avait dit, mais quand même, Akab s'est repenti. J'étais là. Mais oui, quand on regarde bien le texte, il s'est authentiquement repenti et Dieu a été sensible à son humiliation, à son jeûne, le sac, la cendre, le signe de deuil, le regret. Dieu est bon, hein? Dieu est vraiment bon. Mais quelqu'un a dit quelque chose d'intéressant, à repentance temporaire, bienfait temporaire. C'est un peu ça, il a reculé le jugement. Voilà, c'est pas parole, c'est pas une parole biblique, hein, mais bon, ça fait réfléchir. Dieu connaît très bien le cœur d'Akab, c'est un homme faible et influençable. Sa repentance est assez sincère pour que Dieu en tienne compte, mais malheureusement, il ne va pas changer radicalement. Ça, c'est dommage. Et à la première occasion, il va consulter les prophètes de la cour. Et ça, c'est une autre histoire qui suit. Les prophètes de la cour, c'est des gens qui étaient payés. Il dit « Oui, oui, tu peux aller combattre, il n'y a pas de souci, tu auras la victoire, etc. » Et il se trouve qu'il est avec le roi Josaphat, qui est roi de Juda. Et Josaphat lui dit il n'y a pas encore un homme de Dieu que tu pourrais consulter. Il voit bien que ces prophètes de cour, là, ils disent absolument n'importe quoi. Et il répond ceci, Akab. « Il reste un seul homme par qui on puisse consulter l'Éternel. » En fait, il y en avait d'autres, mais bon, il se cachait. « Mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi. » Ah, mais il était clair au moins, Akab, hein? Je veux des prophéties de Dieu, je veux des paroles de Dieu, à condition qu'elles soient positives, qu'ils me caressent dans le sens du poil et qu'ils me disent « vas-y ». Ah là là. Akab, alors c'est le prophète Michée qui est là. Je ne crois pas que ce soit le même, parce que c'est une différence d'époque que celui qui a écrit le livre de Michée. Mais ce prophète en question annonce sa mort et du coup, bah, il est envoyé en prison. Le seul qui a dit la vérité. Ils ont réussi à trouver un prophète de Dieu, mais il a dit la vérité et il a été envoyé en prison. Et Akab va effectivement mourir au combat. Et ce qui est fou dans cette histoire, il est quand même un peu tordu, Akab, hein, parce qu'il fait la guerre avec Josaphat contre les Syriens. Et il dit à Josaphat, revêt tes habits royaux. Et lui, il se déguise en simple soldat. Il n'est pas bête, hein. Parce qu'il savait que l'ennemi, en général, visait le roi. Les rois, à cette époque, ils allaient à la guerre avec leurs troupes. Et du coup, il s'est dit, là, ils vont... En plus, sachant que Dieu lui avait dit qu'il allait mourir au combat, il a pensé que le fait de se déguiser suffirait. Mais pour qui il prend Dieu? Vous vous rendez compte? C'est inimaginable de penser... Alors, bon, je ne vais pas revenir au Moyen-Âge, mais... C'est vrai qu'au Moyen-Âge, on pensait qu'en mettant des gargouilles horribles le long des églises, ça éloignait les mauvais esprits. Ben, c'est du même ressort. Non. Non. Et donc, il s'habille en soldat en se disant, ils ne me verront pas. Par contre, Josaphat, il est habillé en roi, ils vont lui foncer dessus. Effectivement, ils lui ont foncé dessus. Et puis, il a crié parce qu'il a pris peur. Et ils ont reconnu que ce n'était pas Akab. Et ils sont partis. Et ben, il ne savait pas où était Akab. Et il y a un soldat qui a tiré sans savoir. Et puis la flèche est rentrée juste à le petit interstice qu'il y avait entre les deux parties de l'armure. Et Akab a mis quelques heures à mourir, mais il est mort au combat. Donc il a été tué par la flèche d'un soldat qui avait tiré au hasard, alors qu'il avait pris soin de se déguiser. C'est fou, hein? Quand Dieu dit quelque chose, rien ne peut s'y opposer. Même un déguisement, hein, ça n'a pas marché. Dieu est au-dessus de toutes les manigances humaines. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il promet. Et ça, c'est important, positivement aussi, hein. Hein, parfois, je pense au travail, on peut avoir des collègues qui vont tout faire pour que vous n'ayez pas de promotion. Hein, ça, c'est le truc assez courant, hein, dans les bureaux, tout le monde connaît. Ma sœur a vécu des situations de ce genre. Mais si Dieu a décidé qu'il a réservé une place pour vous, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent se déguiser, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dieu l'a dit, vous l'aurez la place. Et c'est ce qui s'est produit. Ben, j'ai beaucoup de témoignages de ma sœur comme ça. Elle a terminé cadre responsable de la formation à la Sécu, alors qu'elle est rentrée comme gratte-papier, parce qu'elle avait changé. Elle était éducatrice, mais elle ne pouvait pas continuer ce métier. Et franchement, combien de fois il y a des gens qui ont essayé d'empêcher ces promotions, qui sont passés par derrière, etc. Et le Seigneur, en son temps, a toujours ouvert les bonnes portes. Peu importe qui mettait le pied dans la porte. Et ça, c'est vrai, quand Dieu veut quelque chose, quand il a quelque chose en vue pour vous, peu importe ce que les gens vous feront, c'est la volonté de Dieu qui se réalisera. Vous inquiétez pas. Le problème, c'est ce que disait André tout à l'heure, ça prend du temps parfois. Mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre, hein. Vous savez, j'aime bien chanter ce chant, en son temps, en son temps. Ah oui, je l'aime bien, enfin ça dépend des moments. Dieu est au-dessus de tout ça, hein. Alors, on va lire le 2 Rois chapitre 1 maintenant. On a passé. Donc, Akab est mort, c'est son fils qui lui succède. Et voilà ce qui est dit à la fin de 1 Roi. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est le dernier verset de 1 Roi. Il marcha sur la voie de son père et de sa mère. Ah, ben ça n'arrange pas les choses. Et sur la voie de Jéroboam, c'était le premier roi d'Israël, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. Donc maintenant, on se retrouve avec un nouveau roi qui est, j'allais dire, presque pire, puisqu'il est, il a reçu de sa mère et de son père tout ce qu'il fallait pas. Alors, le deux rois commence par un verset intéressant. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. En général, quand le roi mourait, les ennemis, ils disaient, c'est la bonne période là pour déstabiliser, hein, évidemment. Et il se révolte. Acasia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage à Samarie et elle se blessa gravement. Alors, il dit pas si c'est quelqu'un qui l'a poussé, il dit pas ce qui lui est arrivé. En tout cas, il est tombé, il s'est blessé. Voilà. La Bible donne pas toujours les détails, c'est pas le but. L'important, c'est le message. Et alors là, c'est quand même le comble. Il fit partir des messagers en leur disant: allez consulter Baal-Zébul, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Non mais quand même, c'est le roi d'Israël. Il a dans son pays des vrais prophètes. Il y en a un normalement qui est encore en prison, qui s'appelle Michée. Et puis, il y a Élie. J'imagine qu'Akasia était bien au courant, peut-être même qu'il était présent avec son père, on ne sait pas. En tout cas, il était forcément au courant que le feu du ciel était descendu sur l'autel et que Dieu, l'Éternel, est un Dieu qui fait ce qu'il promet. Tandis que Baal, oui, il n'a pas répondu, hein. Eh bien, il est malade. Enfin, c'est quand même un peu anodin. Il veut juste savoir s'il va mourir de cette maladie. Et qui va consulter? Baal-Zébul, à Écron, donc dans une ville cananéenne, hein. Autrefois, c'était une ville cananéenne. C'était les Philistins qui étaient là. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'ange de l'Éternel va parler à Élie. Alors, quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. On ne veut pas trop approfondir. La Bible ne donne pas tellement d'explications, mais l'ange de l'Éternel, c'est Dieu parle à Élie et dit: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, le dieu d'Écron? Et pourquoi ? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en va. Oh là là, encore un message. Encore un message qui ne va pas faire plaisir, et Akasia, il n'est pas facile. Vous allez voir, il est presque pire que son père. Pauvre Élie. Là, quand même, on sent qu'il n'est pas rassuré, Élie. Hein. Mais il va y aller. Alors, Baal-Zébu, peut-être vous avez déjà entendu le nom de Baal-Zébu. Je crois que même dans certains jeux vidéo, il y a des choses comme ça, malheureusement. C'est le maître des mouches. Parce qu'on pensait que le soleil amenait les mouches. Et donc, comme c'était le dieu de la nature, etc., c'était aussi le dieu des mouches. En fait, Baal, il avait plein de faces différentes et plein de noms différents. C'est une pâle copie de Dieu qui a, vous savez, dans la Bible, vous avez Jéhovah Jireh, Jéhovah Raphé, etc. Toutes les attributs de Dieu, hein, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu l'Éternel des armées. Eh bien, c'était pareil. Lui, il avait toutes sortes de noms comme ça. Et maître des mouches, dans une ville des Philistins, qui étaient des ennemis de longue date d'Israël. Rappelez-vous, Saül et David ont combattu les Philistins. Mais un siècle et demi plus tard, leur successeur va chercher conseil auprès de leur dieu. C'est quand même le monde à l'envers, quoi. Leur roi, les deux rois qui ont été le plus admirés en Israël, ont combattu les Philistins. Eh bien, lui, il va leur demander conseil. C'est fou, hein. Baal a la réputation de prédire l'avenir. Akasia, pourtant, il connaissait Élie. Il l'avait vu avec Akab, son père. Il l'avait peut-être même vu au Carmel, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi ne pas consulter le Dieu d'Israël, l'Éternel, le Tout-Puissant ? Que peut-on espérer d'un Dieu qui avait été incapable de répondre et de protéger ses 400 prophètes ? Dieu de la pluie, il n'avait pas fait sécher la sécheresse, il n'avait pas pu faire pleuvoir. Alors que le Dieu d'Israël avait montré sa puissance au Carmel, il avait amené la pluie, il avait accepté la repentance d'Akab. Alors pourquoi pas consulter ce Dieu-là ? Gravement blessé, il cherche le secours des idoles. Qu'est-ce qui retient l'être humain ? Parce que c'est pareil aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui retient l'être humain de se tourner vers Dieu ? C'est fou. On sait que Dieu est Dieu. Si on observe un peu la nature, si on écoute les scientifiques honnêtes, on voit bien que Dieu est notre créateur, on voit bien tout ce qu'il fait. Vous savez, observer simplement une chenille et un papillon, difficile de croire au hasard, très difficile. Il faut beaucoup de foi pour croire que tout ça s'est fait par hasard. Il y a tellement de chenilles qui sont mortes qu'à la fin, elles sont transformées en papillons. Difficile, difficile à croire. Et ce Dieu créateur, on ne va pas s'adresser à lui. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui préfèrent les horoscopes, les diseuses de bonne aventure, les astrologues, et ils payent en plus ? Ou des rites anciens de nations qui souffrent encore aujourd'hui des exigences terribles de leur religion ? Vous savez, j'ai longtemps traduit un pasteur indien qui est décédé maintenant. Il me disait toujours, mais je ne comprends pas comment mon pays, qui est un pays si riche, pourrait être extrêmement prospère, mais il est bloqué par toutes les lois sur les castes qui séparent les gens, par toutes les lois qui viennent de l'hindouisme, etc. Quelle souffrance dans ce pays ! Il disait toujours ça et ça lui tirait les larmes. Mais c'est un pays qui pourrait tellement être prospère, mais ils sont bloqués par leur idolâtrie. Et pourtant, en France, on va payer pour avoir des cours de yoga, on va payer pour avoir des cours de méditation transcendantale, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que l'homme va chercher ailleurs qu'en Dieu ? La nature humaine, peut-être, cherche à être maître de sa destinée. Et elle a l'impression, elle cherche la liberté, mais une liberté qui n'est qu'apparente, puisqu'Akab était vendu au mal, donc il n'était pas libre. Je ne sais pas, l'être humain, la nature humaine refuse de se rapprocher de Dieu. Et essayez de réfléchir, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que, bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on a un coup dur, ce n'est pas forcément tout de suite vers Dieu qu'on va se tourner. On va se tourner vers notre raisonnement, vers nos pensées, etc. Puis après, on se dit, bon, je suis chrétien quand même, on va se mettre à prier. Mais vous voyez, la nature humaine, notre nature profonde, ce que la Bible appelle la chair, va aller du mauvais côté. Alors, on va regarder les horoscopes, etc. Parce qu'on a l'impression d'être libre. Oh, l'horoscope, ouais, puis après, je le mets pour allumer mon feu dans la cheminée. On croit être libre, mais en fait, tout doucement, ça grignote. Et si l'horoscope dit, oh, vous allez avoir un accident, je vais conduire comme un âne et puis je risque de l'avoir, l'accident. Il joue sur la psychologie, il joue sur plein de choses. Donc, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers ces choses? C'est terrible. Paraît-il qu'à Paris, il y a plus de magiciens, occultistes, etc., que de médecins, de guérisseurs, que de médecins. Mais pourquoi est-ce que des gens sensés qui sont allés à l'école vont se tourner vers des diseurs de bonne aventure, des marabouts, etc. C'est difficile, hein. Mais on a l'impression qu'avec ces gens-là, on est plus libre. Alors qu'en fait, vous savez très bien que les gens qui sont allés de guérisseur en guérisseur perdent leur liberté. Il y a quelque chose. Moi, j'ai vu des gens qui sont incapables de lire la Bible, des gens qui ne sont pas bêtes du tout, hein, qui n'arrivent même pas à lire une parabole de Jésus, des choses comme ça, parce qu'ils sont tellement trempés dans les milieux des guérisseurs, des magnétiseurs, etc., qu'il y a quelque chose qui les empêche. Ils perdent cette liberté de lire la parole de Dieu. Et on doit prier pour eux, parce que ce n'est pas évident. Il y a quelque chose qui est cassé. Alors en bas, en général, oui, on refuse de se rapprocher de Dieu, de le connaître, de lui obéir, de se soumettre à sa volonté. Oh là là, bien sûr, on a l'impression de perdre sa liberté. Je veux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Parce que vous croyez qu'en allant de magnétiseur en magnétiseur, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez? Et là, certainement pas. On refuse d'obéir à Dieu, de le mettre en priorité dans notre vie, alors qu'on a été créé pour ça. On a créé pour être en communion avec Dieu. On a été créé pour lui parler. Rappelez-vous quand Adam a péché. Il a simplement dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? On a perdu ce lien, on a perdu cette communion. Mais non, on a l'impression que oh, je vais perdre ma liberté. Un peu de Dieu, ça va, mais pas trop. Il faut laisser de la place aux autres dieux, et puis surtout au Dieu qui s'appelle soi-même. Mais vous voyez que Dieu informe Élie, et Dieu donne au messager la réponse qu'il cherche. Ah, vous cherchez une réponse, et bien la voilà. Moi, c'est pas celle que le roi voulait. Akasia, tu ne guériras pas. Tu vas mourir. Akasia devine, grâce à ses vêtements, que l'homme qu'ils ont rencontré, les messagers, c'est bien Élie. Ah bah oui, la réponse qu'il a donnée, hein, c'est évident, c'est Élie. Il était habillé comment? Ah oui, une poil de bête, là, c'est sûr, c'est Élie. Et la réponse du roi est immédiate. Alors, vous imaginez le gars, malade à mourir, sur son lit, il veut savoir s'il va guérir. Il a une prophétie disant « Tu vas mourir ». Ben moi, j'ai vu d'autres rois qui ont agi différemment. Asa, il s'est tourné sur son lit, il a commencé à pleurer. « Oh non, Seigneur, redonne-moi des années, je ne veux pas mourir ». Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, il lui a répondu. Il lui a redonné les années qu'il demandait. Il pouvait en faire autant, hein, Akasia. Implorer la grâce de Dieu. Mais non. Et là, moi, il me choque. Il envoie un chef militaire avec 50 hommes. Alors, si ça ne sent pas la colère, ça, la menace, l'emploi de la force, il ne réalise même pas qu'il ne s'oppose pas à un homme, mais il s'oppose directement à Dieu. Élie n'est pas responsable, c'est un traducteur, c'est un prophète. Hein, il transmet le message de Dieu au roi, mais ce n'est pas lui qui a décidé du message. Akasia avait tout pour se repentir. Il pouvait pleurer, demander pardon, comme Akab, son père l'avait fait. Et Dieu aurait certainement manifesté sa compassion. Seulement voilà, il a préféré se durcir, utiliser la colère et la menace. Alors ces 50 hommes, quant à eux, ils ne semblent pas plus aimables que leur roi. Hein. Ils ne semblent pas être conscients de qui est Élie. Ou bien alors ils s'en moquent éperdument, je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont aucun respect, vous allez voir. C'est incroyable. Donc, il envoya vers lui un chef de 50, donc c'est le verset 9 du chapitre 1 de Deux Rois. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie, qui était assis au sommet de la montagne. Il devait certainement être en train de prier. Il lui dit, « Homme de Dieu, le roi te dit, descends !» On parle pas comme ça à un prophète dans ce temps-là. Hein. Je sais que maintenant, on a peut-être un peu moins d'égards, mais à cette époque, c'était exclu. C'était un homme âgé, d'expérience, qui avait fait ses preuves, quand même un petit peu plus de respect que ça. Et il est là avec ses 50 soldats. Le message n'est pas particulièrement bienveillant. Hein. Leurs intentions sont pas forcément claires, mais de toute évidence, ils se croient beaucoup plus forts que Dieu. Et plus forts qu'Élie, c'est sûr. Mais la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Alors, qu'est-ce que va faire Élie? Alors là, préparez-vous à être choqué. Il lui répond, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Le feu descendit et le dévora, lui et ses 50 hommes. Bon, une sorte d'éclair qui a complètement tué les 51 personnes. Et alors, il y en a qui peuvent dire, « Oh là là, oh là 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 là, c'est pire qu'au Moyen-Âge, là, attends, c'est pas possible. » Donc, il faut se remettre bien dans l'époque. On avait du respect pour les prophètes de Baal. On avait du respect, normalement, pour les prophètes de Dieu aussi. Et ils l'ont traité vraiment comme un condamné, quoi. On est là pour te prendre, t'emmener. Descends. Le roi a donné cet ordre. Et on se retrouve, autant au Carmel, c'était « Qui est Dieu ?» Baal ou l'éternel Dieu. Autant là, c'est « Qui commande ?» C'est Dieu ou le roi ? Et quel roi? La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Élie n'est pas dans la cruauté. Il n'est pas non plus dans la vengeance. Dieu va répondre exactement comme au Carmel. Parce que le problème, c'est qui est souverain? Le roi ou l'éternel Dieu d'Israël? Alors Akasia a une deuxième chance après cette catastrophe. Quand même. Il avait encore... Oh là là là, j'aurais pas dû. Oh là 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 là, Dieu est fâché, vraiment. Oh non, non, Dieu est en colère après moi, je vais me repentir. Non ! Lisez la suite, verset 11. Akasia envoya de nouveau vers lui un chef de 50 avec 50 hommes. Bon, les hommes, on s'en fiche. Et puis, ben voilà, on se considère plus fort que la parole de Dieu. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, voici ce que dit le roi. Dépêche-toi. » Il en rajoute un peu, lui. « Dépêche-toi de descendre. » Allez, hop. La force du roi, là. L'autorité royale. Eh bien, Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendit du ciel et dévora lui et ses 50 hommes. » Alors nous, ça nous choque hein, au XXIe siècle. Mais essayez de vous remettre dans le contexte, c'était vraiment un bras de fer entre le roi et son Dieu, le Dieu d'Israël quand même. Et on ne fait pas un bras de fer avec Dieu. On ne fait pas un bras de fer avec Dieu. C'est la dernière chose à faire. Le deuxième chef, il est encore plus violent, il ne monte pas, il ordonne de descendre et vite. Évidemment, c'est la même chose qui lui arrive. Et Élie répond toujours au nom de l'Éternel. Alors, il s'est repenti, Akasia ? Il a reconnu, bon, ça fait quand même 102 personnes qui ont été éliminées de la terre, là. Faudrait peut-être que je rentre un peu en moi-même. Akasia envoya encore un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Vraiment, c'est le gars qui s'endurcit, qui s'endurcit, qui s'endurcit. Il monte vers Élie et à son arrivée, ce chef-là, il avait du respect. Il plie les genoux devant lui et lui demande grâce en disant « Homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces 50 hommes, tes serviteurs. » Et là, Élie est tellement en colère qu'il invoque le feu du ciel. Élie, il a l'esprit de Dieu en lui et... il ne va pas invoquer le feu du ciel. L'homme lui dit, « Le feu est descendu du ciel, a dévoré les deux premiers chefs et leurs 50 hommes, mais maintenant veuille accorder un peu de valeur à ma vie. » Et c'est là que l'ange de l'Éternel va parler à Élie et dit, « Descends avec lui, n'aie pas peur. » Élie se leva et descendit avec ce chef, « N'aie pas peur. » Ça voulait dire qu'il avait bien compris, Élie, que ces 50 hommes, ils n'étaient pas là pour lui raconter des histoires. Ils étaient là pour l'emmener comme un condamné, et s'il ne ravalait pas sa prophétie, il le tuait. Alors pourquoi je dis ravaler sa prophétie? Parce qu'à l'époque, les païens, j'ai lu ça, pensaient que quand quelqu'un envoie une malédiction, si on tue la personne, la malédiction disparaît. Ou si on lui fait renoncer à cette malédiction par la force, la malédiction n'aura pas lieu. Donc vous voyez, ils sont, Acasia est complètement dans une logique païenne. La Bible dit que la parole de Dieu, on ne peut pas l'annuler. Mais eux, ils sont dans une logique païenne. On le tue, on lui fait ravaler sa prophétie de force, et puis le problème est réglé. Vous voyez, c'est une logique complètement païenne, complètement anti-Dieu, aucun respect ni pour Dieu ni pour son prophète. Et l'ange de l'Éternel dit, ben vas-y, va avec lui. Et qu'est-ce que fait Élie? Il y va, il a beaucoup de courage, parce qu'il a confiance dans cet homme. N'aie pas peur de lui. Ce chef d'armée aimait ses hommes, et visiblement, il avait du respect pour Dieu. Et Dieu n'y a pas touché. Vous voyez que ça donne une image de Dieu un peu différente de ce qu'on peut avoir dans l'Ancien Testament. Quand l'homme s'est montré respectueux de Dieu et de son prophète, il n'a pas touché. Il lui dit, va avec lui. Ouh, courageux le pauvre Élie. Et voilà ce qu'il dit au roi. Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers et consulté Baal-Zébul, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas en Israël, comme s'il n'y en avait pas en Israël, de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras, la prophétie n'a pas bougé. On ne fait pas changer Dieu d'idée quand on ne se repent pas. Acasia mourut, conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram régna, etc., à sa place, etc. Il a eu du courage et la parole de Dieu. Comme je vous dis toujours, quand Dieu a prévu quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Et vous savez, souvent, les propres enfants, les jeunes de l'Église, je dis toujours, c'est important, hein, les choix de carrière, où je vais habiter, avec qui je vais me marier, voilà, qu'est-ce que je choisis comme étude, quelle branche je choisis, etc. J'ai toujours prié pour que Dieu ferme les portes qui ne sont pas les bonnes et qu'il ouvre les bonnes. Ce n'est pas compliqué. Alors, parfois, il ferme des portes qu'on aurait bien aimées, sur le coup, quoi. Et on dit, « Oh, Seigneur, pourquoi tu as fermé cette porte ?» Et ben, parfois, il la ferme momentanément. Parfois, il a ses raisons et on les voit plus tard. Parfois, on ne les voit jamais, mais en général, on les voit. Donc, l'idée, c'est de prier, « Seigneur, ouvre les bonnes portes », parce que Dieu réalise ce qu'il veut. J'aime bien ce verset qui dit, « Dieu est sur son trône et il fait tout ce qu'il veut ». Ce n'est pas une idole, on lui fait dire ce qu'on veut. Non, non. Il est sur son trône, il fait tout ce qu'il veut. Et je crois que quand on a plein de choix à faire, et c'est votre cas aux jeunes, là, hein, vous avez des choix d'études, plein. Demandez à Dieu, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui doivent être fermées. Alors ça, c'est la partie de la prière la plus difficile. Parce que s'il ferme une porte que vous auriez bien aimée, mais vous n'en faites pas. S'il la ferme, c'est parce que ce n'était pas pour vous. C'est parce qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour vous. Parce qu'il a des plans, parce qu'il connaît votre caractère, il connaît les dons qu'il vous a donnés. Et il sait que peut-être dans cette porte-là, bon, non, vous n'allez pas vraiment prospérer, vous n'allez pas vraiment rentrer dans votre destinée. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, mais soyez honnête. Il y a un pasteur qui disait toujours, n'ayez rien dans les poches quand vous demandez ça à Dieu. C'est vraiment honnête. Seigneur, même si je pleure, ce n'est pas grave, ferme cette porte. Parce que je sais que ce que toi tu as prévu, ce sera bon pour moi. Et faites pas comme Acasia, n'endurcissez pas votre cœur contre Dieu, il veut votre bonheur. Mais parfois, il va vous apprendre des choses. Et c'est désagréable, être apprenti. Vous croyez que c'est drôle d'être apprenti? Autrefois, hein, les apprentis, ils n'étaient pas toujours bien traités. Hein. Mon cousin est pâtissier, et puis il a travaillé avec des chefs pâtissiers connus. Et il a dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont durs! Qu'est-ce qu'ils sont pénibles! Certainement trop d'ailleurs, hein. Ce sont des humains. Mais il a appris et il a remporté des concours après, etc. Mais le temps, on apprend des choses avec Dieu et ce n'est pas toujours drôle. Mais après, on est content de ce qu'on a appris. Donc priez que Dieu vous ouvre les bonnes portes et qu'il ferme les mauvaises. Même si vous devez pleurer un petit peu, vous avez le droit de pleurer. Mais priez que Dieu vous ouvre les bonnes portes et qu'il ferme les autres. Ça va considérablement vous aider. Faites pas comme Acasia. Je veux ce que je veux. Et puis même si le prophète, il a dit de la part de Dieu, je m'en fiche, je vais lui envoyer des soldats. Faut pas jouer à ça avec Dieu. Faut vraiment pas jouer avec ça. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Oui, il faut résister, mais pas à Dieu. Au diable, et pas l'inverse. Et malheureusement, il y a trop de gens aujourd'hui qui font l'inverse, qui vont résister à Dieu, et sans s'en rendre compte, ils se soumettent au diable. La Bible dit, la voie du transgresseur est difficile. Dieu est amour, il est aussi patient. Alors pourquoi lui résister? On a eu la preuve là, hein, qu'il est prêt à tout faire pour celui qui se repent, pour celui qui se tourne vers lui. Dieu est amour, il est patient. Pourquoi lui résister? Attention à l'illusion de la liberté. C'est la mode en ce moment. Je veux être libre. Croyez-moi, plus on s'éloigne de Dieu, moins on est libre. Même un roi n'a pas de pouvoir sur Dieu et sur sa parole. En Israël, le roi aussi devait se soumettre à Dieu. Contrairement aux païens. Hein. En Israël, le roi devait aussi se soumettre à Dieu et à sa parole, transmise fidèlement par ses prophètes. Alors, juste un petit détail. Si vous voulez lire Luc 9, 54, les disciples de Jésus étaient fâchés. Ils n'avaient pas été bien reçus par les Samaritains. Et ils disent à Jésus, oh, tu ne peux pas faire descendre le feu là, sur eux là. Et Jésus les reprend et dit non. Ah, ce n'est pas que Jésus était contre ce qu'a fait Élie. C'était un autre contexte complètement différent. Ils ne voient pas les disciples la différence entre l'incrédulité des idolâtres, des Israélites idolâtres, et celle des Samaritains de leur temps, qui étaient juste méfiants et un peu coupés. Mais ce n'était pas la même chose. Dieu n'aurait absolument pas approuvé un acte de vengeance. Hein? Il y a des gens qui vont vous faire passer l'attitude d'Élie pour un acte de vengeance. Non, 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 non. Il voulait montrer encore une fois que le roi, c'est un homme et Dieu est Dieu. Et qu'on ne fait pas un bras de fer avec Dieu. Donc vous voyez, c'était beaucoup plus profond que « Oh, les vilains, on va leur envoyer le feu du ciel. » Et les disciples, là, ils sont allés un petit peu fort. Ils nous ont pas reçus, alors « Envoie le feu !» Akasia était complètement indifférent aux paroles du prophète et aux signes du jugement. Donc la sentence ne change pas. Et le jugement va se faire sans délai, il va mourir. Mais la leçon de tout ça, c'est « Seigneur, donne-nous un cœur capable de se repentir. » Pour que les plans méchants du diable sur notre vie ne se réalisent pas, mais que ce soit les bons plans de Dieu. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour qu'on puisse toujours garder dans nos cœurs l'image de ce Dieu puissant, terriblement puissant, mais aussi terriblement plein de compassion. Seigneur, merci pour ta compassion lorsque nous revenons vers toi pour dire « on a mal fait ». On a eu tort, on s'est mal comporté, on a mal pensé, on a mal agi. Seigneur, merci pour ta compassion. Merci Seigneur parce que tu es celui de deuxième, troisième, quatrième chance. On l'a vu même avec Akab. Merci pour cette compassion. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix qui fait qu'on peut venir vers toi te demander pardon, que le prix a déjà été payé par le sang versé de Jésus à la croix. Merci Seigneur. Merci et nous sommes reconnaissants d'avoir un Dieu si plein de compassion, un Dieu vivant, un Dieu merveilleux, un Dieu qui agit en son temps bien sûr, mais qui répond à nos prières. Seigneur, vraiment, aide-nous à nous éloigner toujours plus des idoles, de l'idole du moi, de tout ce qui vient se mettre en travers, afin que tu sois honoré dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Tu sais que nous sommes fragiles et tu prends soin de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.